9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Juillet 1824 avait vu décliner la santé du roi obèse, du roi Louis XVIII. Le mois d'août va l'avoir littéralement périclité. Et le jour de la Saint-Louis, le 25 août, on voit le roi qui essaie de se faire porter néanmoins devant la cour dans une espèce d'habit brodé, doré, somptueux. Ce fut un spectacle à la fois grandiose et pitoyable, commentera Madame de Boigne. J'avais l'impression que je voyais pour la dernière fois ce vieux monarque dont la sagesse avait été mise à tant d'épreuves et qui aurait peut-être triomphé de toutes les difficultés de sa position si la faiblesse et la maladie ne l'avaient jeté tout désemparé entre les mains de ceux contre les folies desquels il luttait depuis 30 années. Eh bien, au nombre de ceux contre les folies desquels il luttait figurait, et non seulement au nombre mais au premier rang, son frère, bien entendu, ce comte d'Artois dont il doutait sérieusement de la capacité à lui succéder intelligemment. Dans le numéro d'Historia qui est dans les kiosques, j'ai raconté, dans un article qui s'appelle « Du roi sans jambes au roi sans tête », j'ai raconté comment une fausse alerte avait presque propulsé Charles X sur le trône. Ça se passe à Saint-Cloud quelques jours plus tôt. Un malaise a terrassé Louis XVIII. Je me cite là, en l'occurrence, « Tous les officiers de la chambre l'ont cru à l'article de la mort. Monsieur est accouru au chevet de son frère comateux avec une de ses belles-filles, la duchesse d'Angoulême. » La duchesse d'Angoulême, c'est la survivante du temple, hein, c'est celle que naguère on appelait Madame Royale. Mais le roi s'est remis de la syncope et, souriant à son frère, il lui a murmuré dans un souffle « Ah, monsieur, vous avez cru être roi, vous êtes trop pressé. Rassurez-vous, ce n'est que partie remise. » C'est vrai que le 12 septembre, le roi est obligé de s'aliter. Définitivement, on va lui administrer d'ailleurs les derniers sacrements. Le 14, il refuse de réciter la prière aux agonisants, sauf qu'il finit par perdre connaissance une fois de plus. Alors les prêtres en profitent pour réciter quand même la prière et à ce moment-là, le roi se réveille. Et le grand aumônier est bien gêné. Il titube de gêne. « Continuez, monsieur, dit Louis XVIII, puisque vous avez cru devoir commencer. Je n'ai pas peur de la mort, il n'y a qu'un mauvais roi qui ne sache pas mourir. » Ça fait un peu penser, ça, évidemment, à la mort du grand ancêtre Louis XIV. C'est le 16 septembre, à 4h du matin, que le docteur Portal va pouvoir constater officiellement le décès. Oh, il connaît son étiquette sur le bout des doigts, le médecin de la cour. Il s'approche immédiatement de monsieur. Il s'incline très profondément. Désormais, il a devant lui celui qu'on va appeler le roi Charles X. Et c'est vrai que c'est tout à fait le contraire de son frère Charles X. Il faut imaginer cette silhouette haute, mince, très souple. Il a gardé son air de gentilhomme à l'ancienne, bien qu'il ait 67 ans déjà. Autant son frère était raide physiquement et souple intellectuellement, autant on va dire le contraire de Charles X, qui est très souple sur un plan physique, mais qui en revanche va montrer, dans le domaine de la politique notamment, une très grande rigidité. Il est complètement pétri des préjugés de son siècle et de son rang, nous dit Chateaubriand. Et le siècle dont on parle, vous avez bien compris que ce n'est pas le 19e siècle où nous sommes là en 1824, non. Le siècle de Charles X, ça reste évidemment le 18e siècle. Alors, c'est un homme tout à fait charmant, hein, d'une politesse exquise, très simple de mœurs, avec beaucoup de générosité. Il a fait des dons toute sa vie, colossaux. Celui qu'on appelait encore naguère le comte d'Artois. C'est un grand seigneur, si vous voulez, qui se montre extrêmement chaleureux avec les petites gens, extrêmement fin et même adroit avec les grands seigneurs. C'est un bon père, c'est un excellent grand-père, et qui, par ailleurs, professe l'amour de la patrie. Bref, il a tout pour devenir le souverain idéal, et pourtant, il ne va pas l'être.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Le 27 septembre 1824, c'est-à-dire juste après l'enterrement de son frère, le nouveau roi Charles X fait son entrée solennelle à Paris. Oh, il fait une pluie terrible, une pluie battante, mais lui est sur un beau cheval, à la robe d'argent, et il a fière allure sur son pur sang. Ce roi fier et droit, ce Charles X qui salue le faubourg. D'ailleurs, à l'une des fenêtres du faubourg Saint-Honoré, il y a son petit-fils, le duc de Bordeaux. Alors le roi s'approche, et faisant immobiliser son cheval sous la pluie, il lui fait une jolie révérence, il le salue d'une certaine manière, et le petit garçon crie « Bon papa !», ce qui fait rire le souverain, et qui fait rire la foule, et quand il rentre aux Tuileries, trempé mais heureux, le nouveau roi se dit que finalement ces Parisiens qui ont décapité son frère et sa belle-sœur, qui ont fait cette révolution terrible, qui ont acclamé Bonaparte devenu l'empereur Napoléon, finalement ces Parisiens ne sont peut-être pas si terribles. Il a décidé de maintenir en fonction le gouvernement Villèle, ce qui rassure beaucoup la haute bourgeoisie, bien entendu. On a l'impression que tout va bien, on a cette impression jusqu'au discours du trône qui a lieu à Noël de cette année 1824. Et là, on comprend que le roi ne va pas suivre la politique modérée de son frère. Il annonce d'abord une loi de défense religieuse. Il faut vous dire qu'il est extrêmement dévot, le roi Charles X. Il est confit en dévotion. Il annonce aussi un projet d'indemnisation massive des aristocrates qui ont été spoliés par la Révolution. C'est ce qu'on va appeler le milliard des émigrés. Et sa volonté, carrément, de rétablir le droit d'aînesse. Vous voyez un peu comme l'opposition libérale peut être ravie de ce genre d'annonce. On est sidéré de voir les ultra-royalistes au pouvoir et le roi à leur tête. Et dans le même discours, le roi fait connaître son intention de se voir dans la vénérable lignée de ses pères, n'est-ce pas, loin du Saint-Christ. Crème à Reims, oui, il veut son sacre, Charles X, comme s'il s'agissait d'officialiser l'alliance du trône et de l'autel. Son frère ne s'était pas fait sacrer. Il va avoir lieu ce sacre de Charles X le 29 mai 1825, le dernier d'une très longue liste de sacres à Reims, n'est-ce pas? On commandera, c'est la couronne qui commandera à Rossini un opéra pour la circonstance. Le voyage à Reims et ce qui aurait dû être un bel opéra plein de dévotion pour le souverain sacré va tourner, disons-le, au plus léger, comique, presque au vaudeville. Et c'est un peu ce qu'on ressent aussi dans la cathédrale de Reims au moment du sacre. Tout ça a l'air d'être une espèce de grande pantomime à laquelle le nouveau siècle ne veut plus croire. Et quand il rentre à Paris le 6 juin, c'est-à-dire 9 mois après la mort de son frère Louis XVIII, Charles X est stupéfait de voir que l'accueil des Parisiens a beaucoup changé. C'est un accueil qui est devenu très froid. On entend beaucoup de remarques ironiques. Le roi pourrait essayer d'en tirer les conséquences, les conclusions. Il pourrait se montrer un peu plus amène. Non, en vérité, il va faire tout le contraire. L'ouverture du voyage à Reims de Rossini par l'Academy of St. Martin in the Fields sous la direction de Sir Neville Mariner.
Vous écoutez Radio Classique.
Il y avait cette loi qui se qualifiait de justice et d'amour et qui devait réglementer la presse, dissoudre la garde nationale, etc. En fait, cette loi va très mal passer et elle devient en quelque sorte le symbole, cette loi dite de justice et d'amour, le symbole d'un gouvernement qui n'a rien compris. Et le ministère Villèle a du mal à se maintenir en place, disons-le. La Chambre doit être renvoyée le 5 novembre 1825. 1827, le roi procède immédiatement à une nouvelle fournée de 76 nouveaux pairs. Et si vous regardez bien les noms de ceux qui viennent d'être nommés à la pairie, la plupart sont membres de la congrégation, cette organisation religieuse extrêmement stricte. L'opposition va remporter dans la foulée les élections. Elle dispose désormais d'une soixantaine de voix de majorité et Villèle est condamné. Et avec lui, le gouvernement ultra qui menait, qui était fidèle aux visées du roi Charles X. Charles X, de toute façon, n'a pas le choix et il est obligé de laisser partir Villèle. Et ça ne plaît pas à la duchesse d'Angoulême qui, il est vrai, a vécu ce qu'il y avait de pire dans la Révolution et qui dit à son beau-père, qui en même temps est son oncle, « Vous abandonnez Monsieur de Villèle, eh bien c'est la première marche du trône que vous descendez. » Le nouveau Premier ministre, le nouveau président du Conseil, devrais-je dire, s'appelle le vicomte de Martignac. C'est un avocat bordelais, au caractère facile, avec beaucoup de talent oratoire. Mais ce talent oratoire fait sourire aussi bien dans les rangs de l'opposition que dans ceux d'une cour qui ne l'aime pas. Le roi Charles X considère que les belles paroles et la belle voix de son nouveau Premier ministre ne sont qu'un bel organe, une jolie serinette, dit-il. Charles X n'est pas heureux de son nouveau gouvernement et il va essayer de maintenir autant qu'il le peut une politique qui, d'une certaine manière, est hors d'âge, n'est plus de son temps. Il y a, le 16 juin 1828, la signature de cette ordonnance qui limite l'influence et l'action des jésuites dans l'enseignement. Cette ordonnance, elle a été extorquée par le nouveau chef du gouvernement à un roi qui est furieux d'avoir dû signer ça. D'ailleurs, le souverain se refuse à changer tout le personnel administratif qui avait été mis en place du temps déjà de son frère par Villèle. Il n'est pas question pour lui de renvoyer ses vieux amis, comme le dit-il. Le maréchal Soult, qui est d'accord avec un certain nombre d'opposants et avec le dauphin lui-même, répète au roi qu'il faut changer. « Sire, la France est de centre-gauche, lui dit-il. » Mais Charles X ne veut rien comprendre. Il se croit sûr de sa popularité. Il faut vous dire qu'il a fait un voyage officiel en Alsace où il a été très applaudi. Et d'ailleurs, à son retour, il a avoué à Casimir Perier « Ah, si j'avais su que je fusse tant aimé, j'aurais même gardé Villèle, dit-il. » Ce qui prouve que Charles X ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Encore une fois, c'est une bonne personne, Charles X. Il est absolument charmant avec tout le monde, mais il est ancré sur des certitudes qui sont celles de l'Ancien Régime et qui ne vont plus avec le siècle. Il y a cette loi sur l'organisation communale et départementale qui est un véritable échec et qui va, au passage, fournir au monarque l'occasion de se débarrasser de cette équipe qu'il n'a, somme toute, jamais acceptée. D'ailleurs, il dira à son entourage « Je vous le disais bien, il n'y a aucun moyen de traiter avec ces gens-là ». Et donc, le ministère est congédié le 6 août 1829 et remplacé par Jules, en tout cas Martignac est remplacé par Jules de Polignac. Jules de Polignac, c'est le fils du meilleur ami de Charles X avant la Révolution, ami de jeunesse du roi. Donc, d'ailleurs, le roi le tutoie. C'est un homme encore jeune, fort élégant, fort distingué, dont il se murmure en sourdine qu'il est peut-être le fils naturel de Charles X. En tout cas, lui a bien l'intention de sauver la dynastie, de sauver le régime. On le surnomme Jean d'Arc et le roi est ravi de le voir au pouvoir. « Ah, j'ai mes vieilles idées, dit Charles X. Je veux marcher avec elles et je suis bien aise qu'on le sache. » Tout ça ne plaît pas beaucoup. Le journal des débats définit la nouvelle équipe de ces voltigeurs du pouvoir absolu en trois mots. Coblenz, Waterloo, 1815. Et de nouveau, Madame Royale, qui est devenue duchesse d'Angoulême, qui est devenue la belle-fille de Charles X, annonce « Ceci est une aventure et je ne les aime point. Elles ne nous ont jamais porté bonheur. » Non, c'est un fait. À l'ouverture de la session des chambres le 2 mars 1830, dans la grande salle du Louvre, Charles X se montre irrité, nerveux, et il lance « Si de coupables manœuvres suscitaient à mon gouvernement des obstacles que je ne peux, que je ne veux pas prévoir, je trouverais la force de maintenir la paix publique dans la juste confiance des Français et dans l'amour qu'ils ont toujours montré à leur roi. » Il va y avoir là-dessus ce qu'on appelle la prise d'Alger, qui est un grand succès militaire et qui donne des ailes, sinon au gouvernement, du moins au roi, qui se croit une fois de plus sauvé et qui, dans la foulée de cette prise d'Alger, va prendre, le 25 juillet, à Saint-Cloud, 5 ordonnances en vertu de l'article 14 qui suspendent ces ordonnances, la liberté de la presse, qui dissolvent la Chambre, qui modifient le système électoral. Enfin, vous voyez de quoi agiter l'opposition et de quoi lancer ce qui va devenir une véritable révolution. Le Sanctus de la messe du couronnement de Charles X par Luigi Cherubini, le chœur et l'orchestre Philharmonia étaient sous la direction de Riccardo Muti.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, je ne vous ai pas parlé de la vie quotidienne du roi Charles X, de tout ce monde qui l'entoure aux Tuileries. Hein, 800 personnes, des officiers de cour répartis entre une chapelle, une chambre, une écurie, une vénerie, une garde-robe, un hôtel. Enfin, tout ça fait beaucoup penser à l'Ancien Régime. Mais il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus le charme de Versailles dans cette grosse cour des Tuileries. Voici ce que raconte Jean-Paul Garnier, qui connaissait particulièrement bien ce monde. Dans un désordre chatoyant se mêlent plumes blanches et habits rouges des chambellans, tenues bleu ciel des gentilshommes de la chambre, alternant avec les plumes noires, les seules dont peuvent se parer les personnages de second plan, les soutanes violettes aussi. Tout le monde ne peut être cardinal de la Sainte Église romaine et les hauts cols brodés d'or des ministres de Sa Majesté très chrétienne. On voit tout ce monde-là qui s'affaire en sourdine, disons-le. Il y a une espèce de, à l'époque, une espèce de snobisme à se montrer très discret, n'est-ce pas ? On a toujours l'impression qu'on est en train de veiller les morts aux Tuileries, c'est en tout cas ce que nous dit Madame de Boigne. Les réceptions se révélaient d'un ennui majestueux mais mortel, confirme Jean-Paul Garnier. L'arrivée des dames était également réglementée. À 7 heures l'hiver, elles montaient par l'escalier d'honneur, stationnaient dans la salle des maréchaux devenue celle des gardes, traversaient le salon bleu, l'ancienne antichambre mal éclairée, puis pénétraient dans le salon de la paix qui ne l'était pas davantage. Les duchesses avaient seules l'autorisation de poursuivre jusqu'à la salle du trône réservé aux puissants de ce monde. Lorsqu'elles avaient été reçues, les dames non titrées étaient admises à leur tour et défilaient devant le roi, assis quant à lui le dos à la cheminée. Révérence, il disait un mot ou ne disait rien. Seconde révérence et par la galerie de Diane, on se hâtait vers l'escalier de l'appartement qui conduisait au rez-de-chaussée chez Madame la Dauphine. Il y avait toujours encombrement et parfois bousculade pour entrer, nous dit encore Jean-Paul Garnier. Avec de l'intelligence et de la ruse, une bonne tactique et force coup de coude, on y parvenait néanmoins et l'on s'arrêtait un instant devant la princesse, droite près des portes. À chaque visiteuse, elle adressait quelques paroles que terminait un bref signe de tête. Il n'y avait plus qu'à faire la révérence et à passer chez Son Altesse Royale, le duc d'Angoulême, où l'on ne s'attardait pas davantage. En sortant de chez lui, on se trouvait dans le vestibule du pavillon de Flore, sous le péristyle de l'escalier, qui était ouvert comme cela sur la rue et exposé aux intempéries de toutes les saisons.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Donc, le 25 juillet, Charles X a signé ses ordonnances jugées liberticides par la Chambre des députés, par tous ceux qu'anime l'idée de liberté. Et Paris va se réveiller. C'est le début de ce qu'on appellera, sous la monarchie de juillet, les Trois Glorieuses. Charles X est à Rambouillet. Il n'a pas conscience de l'ampleur du mouvement. Le 2 août 1830, il va tout de même être obligé d'abdiquer en faveur de son petit-fils. Charles X avait forcé son fils, le duc d'Angoulême, à abdiquer avant que lui-même ne le fasse. Et il avait peu d'estime pour ce fils. Et c'est donc le petit duc de Bordeaux, âgé de 10 ans, qui devrait devenir roi. Mais la vérité, Vous la connaissez, c'est que c'est le cousin du roi qui lui est favorable aux libéraux et favorable à une constitution. C'est Louis-Philippe d'Orléans qui va devenir le roi à la place de Charles X. Le convoi funèbre de la monarchie, pour reprendre une expression de Chateaubriand, va s'embarquer le 16 août 1830 dans un premier temps pour la Grande-Bretagne, pour l'Angleterre. C'est pas en Angleterre que la petite cour française pour autant a l'idée de rester, et d'autant que l'hiver sera difficile à supporter. On veut partir pour l'Écosse, au château d'Holyrood. C'est là que le comte d'Artois avait passé une partie de son exil pendant la Révolution. Et puis, d'Écosse, finalement, on va chercher un exil plus stable. On va demander l'asile à la très conservatrice Autriche, dirigée par l'empereur François Ier et par son éternel ministre Metternich. Et à la fin du mois d'octobre 1832, l'ancien souverain Charles X arrivera à Prague. On lui met à sa disposition un des beaux châteaux de Prague. On se plaît bien autour de Charles X à Prague chez les Habsbourg, seulement un événement va condamner la petite cour à un dernier déménagement, c'est le décès de cet empereur François Ier. Son successeur Ferdinand Ier demande à récupérer son château en mai 1836 et Charles X va donc se tourner vers le sud du territoire habsbourgeois. Il se rend à Göritz, pas très loin de Trieste. On lui a vanté les mérites du climat méditerranéen qui pourrait être bon pour son grand âge. Et c'est comme ça que la cour va finir par arriver à Göritz, aujourd'hui Gorizia, où mourra Charles X au petit matin du 6 novembre 1836 à 1h30. Ne cherchez pas sa dépouille quelque part en France, car elle se trouve toujours à l'heure où je vous parle, à Gorizia.
Vous écoutez Radio Classique.
Voilà, on n'a pas beaucoup parlé dans l'ensemble des médias de ce bicentenaire de la mort de Louis XVIII et de l'avènement de Charles X, mais nous y aurons quand même consacré deux émissions, celle d'hier sur Louis XVIII, que vous pouvez réécouter bien sûr, et donc celle d'aujourd'hui sur Charles X. Tout ce sujet, évidemment, est largement développé dans le numéro d'Historia qui est en kiosque en ce moment et qui a en couverture le dossier sur les Berbères. Les Berbères, 3000 ans de fierté, n'est-ce pas ?
Sujet intéressant qu'on a déjà évoqué avec vous. Vous allez de bicentenaire en bicentenaire, si je veux dire. Demain, c'est un autre sujet qui...
Oui, ce ne sera pas un bicentenaire demain.
Non, mais qui nous permettra de souligner la grande qualité de la langue française.
N'est-ce pas ?
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À 14h, à tout à l'heure, Franck, et à demain.